VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 19 novembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seydoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Adoption de certaines réformes internes au sommet extraordinaire de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie.
Au Mali, assassinat d'un responsable de l'ex-rébellion Touareg hier à Tombouctou.
En République démocratique du Congo, reprise hier de la mobilisation contre l'épidémie d'Ebola dans la région de Beni.
22 migrants sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large du Maroc.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump ne veut pas écouter l'horrible enregistrement du meurtre à Istanbul en Turquie du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
À Addis Abeba, en Éthiopie, l'Union africaine, réunie en sommet extraordinaire, a adopté hier plusieurs réformes visant à rationaliser l'organisation continentale et à obliger les États membres à respecter leurs obligations. Des détails avec Nathalie Barge.
Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, a salué les progrès réalisés lors de ce sommet, malgré le rejet de certaines de ses propositions de réforme qu'il avait dévoilées l'an dernier suite à la demande de l'Union africaine, l'ayant chargé de remanier l'organisation continentale, souvent considérée comme inefficace et trop dépendante des donateurs. La majorité des 55 États membres ont rejeté son projet de donner au patron de la Commission de l'Union africaine le pouvoir de nommer ses propres adjoints et commissaires afin de rendre l'administration plus responsable devant son chef. Le sommet a soutenu les mesures visant à rationaliser l'organisation panafricaine tout en générant des recettes auprès des États membres et en sanctionnant ceux qui ne versent pas leurs contributions. L'Union africaine a également accepté de réduire le nombre de ses commissions de 8 à 6, la paix et la sécurité fusionnant avec les affaires politiques et le commerce et l'industrie avec les affaires économiques, a dit devant la presse le président de la commission Moussa Faki Mahamat. L'Union africaine dépend des donateurs étrangers qui paieront l'an prochain 54% d'un budget total de plus de 680 millions de dollars.
Au Mali, un responsable de l'ex-rébellion Touareg dans le Nord, membre du MOC, a été assassiné hier à Tombouctou et ce, en plein processus de désarmement et de démobilisation. Le point avec Jean-Roger Bion.
Moulay Touami était membre du mouvement arabe de l'Azawad, une composante de la plateforme, et était intégré au sein du mécanisme opérationnel de coordination. Il a été assassiné par des terroristes dans le quartier Abaradjou, a déclaré une source sécuritaire. Ils ont tiré plusieurs balles sur lui, a confirmé un responsable de l'ex-rébellion, séjournant à Tombouctou dans le cadre du processus désarmement, démobilisation et réinsertion, lancé le 6 novembre. Le 9 septembre, le commandant Salom Houldbeki, chef de mission de la coordination des mouvements de l'Azawad au sein du MOC, avait déjà été assassiné à Tombouctou. 1600 combattants des trois régions du nord du Mali sont concernés par le DDR, qui prévoit l'inclusion d'ex-groupes rebelles ou pro-gouvernementaux au sein d'une armée nationale restructurée, plus représentative des populations du Nord en particulier. Jusqu'ici, moins de 500 ont été enregistrés à Tombouctou, Kidal et Gao, où certains débutent le processus, tandis que 72 l'ont achevé à Tombouctou.
En République démocratique du Congo, la mobilisation contre l'épidémie d'Ebola dans la région de Beni, dans l'Est, a repris hier après une brève suspension en raison d'affrontements armés, selon un communiqué de l'Organisation mondiale de la santé. L'insécurité est entretenue dans cette région par les attaques récurrentes des rebelles ougandais des ADF qui ont massacré des centaines de civils depuis 2014.
En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa va rembourser 500 000 rand de fonds électoraux perçus d'une entreprise liée à son fils après avoir reconnu avoir menti au Parlement. Il avait affirmé que ce paiement avait été reçu en octobre 2017 par son fils comme consultant de l'entreprise Bossassa des services informatiques qui travaille avec des institutions publiques. M. Ramaphosa avait ensuite dit que cet argent était une donation pour sa campagne à la présidence de l'ANC.
Des réformes urgentes sont urgentes en Algérie pour diversifier une économie dépendante aux hydrocarbures et éviter une crise économique dès 2019, a averti aujourd'hui le Centre d'analyse International Crisis Group. L'Algérie a subi de plein fouet la dégringolade des cours entre 2014 et 2017. Selon l'ICG, la paralysie politique a fait obstacle à toute mesure décisive. Et cette paralysie est, dit-on, renforcée par l'incertitude autour d'une candidature du président Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, à un cinquième mandat en avril prochain.
22 migrants sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large du Maroc, près de Tiznit, dans le sud, a indiqué l'agence de presse officielle MAP dimanche. Trois autres de nationalité marocaine ont pu atteindre la plage en nageant et ont alerté les autorités. Ils ont été transportés à l'hôpital, selon l'agence, qui n'a pas précisé les nationalités des 22 disparus.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a affirmé qu'il dispose de l'enregistrement du meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi début octobre au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, en Turquie. Mais le président Trump a dit qu'il ne souhaitait pas l'écouter car son contenu est, je cite, très violent. De nouveau, Jean-Roger Bion.
Nous avons l'enregistrement, je ne veux pas l'écouter car c'est un enregistrement de souffrance, a-t-il déclaré dans un entretien à Fox News diffusé dimanche. J'ai été intégralement briefé, je sais exactement ce qui s'est passé, c'était très violent, très brutal et horrible, a-t-il précisé. Récemment, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé avoir partagé avec Riyad, Washington, Paris et Berlin des enregistrements réalisés dans le consulat au moment du meurtre. Selon le Washington Post et le New York Times, la CIA a conclu que Mohamed Ben Salman avait commandité l'assassinat de Khashoggi. Le département d'État a assuré samedi que les États-Unis n'avaient abouti à aucune conclusion définitive sur les responsabilités dans ce meurtre. M. Trump a refusé à nouveau de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de MBS, mettant en avant les dénégations du prince héritier saoudien. Rappelant que les États-Unis avaient annoncé des sanctions financières ciblées contre des responsables saoudiens, il a à nouveau souligné que l'Arabie saoudite était un allié précieux.
Au Yémen, un responsable des rebelles houthis, appuyé par l'Iran, s'est prononcé aujourd'hui pour un gel des opérations rebelles contre les forces loyalistes soutenues par l'Arabie saoudite. Cet appel coïncide avec le projet de l'émissaire spécial de l'ONU de se rendre à Sanaa sous contrôle de la rébellion. Martin Griffith a dit vouloir organiser rapidement des pourparlers de paix en Suède. Il a assuré de l'engagement des partis en présence.
Le président Donald Trump a déclaré qu'il n'aura probablement pas un entretien direct avec le procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Ce qui semble signifier que ses réponses écrites aux questions de M. Mueller seront les dernières à ce sujet. Dans une interview avec Fox News diffusée hier, M. Trump a de nouveau attaqué cette enquête qu'il a toujours qualifiée de chasse aux sorcières.
En Floride, le gouverneur républicain Rick Scott l'a emporté face au démocrate Bill Nelson lors d'une élection sénatoriale particulièrement disputée qui s'est achevée par un dépouillement manuel. Nous retrouvons Nathalie Barge.
Selon les résultats définitifs en Floride, Rick Scott a emporté 50,05% des suffrages, soit un avantage d'un peu plus de 10 000 votes face aux sénateurs sortants. Si les républicains étaient déjà assurés de conserver le contrôle de la Chambre haute, cette victoire dans ce grand État du Sud leur offre une majorité plus confortable. Bill Nelson, qui était sénateur de Floride depuis 17 ans, a concédé sa défaite avec élégance, a indiqué Rick Scott dans un communiqué. Le candidat démocrate au poste de gouverneur, Andrew Gillum, a lui aussi concédé sa défaite samedi face au républicain Ron DeSantis. Ces annonces mettent fin à un imbroglio électoral qui rappelait le rôle crucial joué par la Floride pour départager George Bush et Al Gore lors de la présidentielle de 2000. Le processus avait finalement été arrêté par la Cour suprême. Le républicain Bush avait battu le démocrate Al Gore par 537 voix et remporté la présidentielle.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Tchad bénéficiera d'un financement de 21 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour sa relance économique en 2018-2019. Ces fonds serviront à financer la stratégie d'accroissement des finances publiques et à promouvoir l'efficacité des dépenses publiques d'une économie plombée par une dette publique atteignant les 48% du PIB. Ils devraient aussi financer des projets d'amélioration du climat des affaires, de diversification de l'économie et de réforme du secteur énergétique. À l'échelle mondiale, le montant de l'aide débloquée par les gouvernements en faveur de la filière cotonnière a augmenté de 33% en 2017-2018 pour se chiffrer à 5,9 milliards de dollars. Cette enveloppe comprend l'aide directe à la production, l'assurance récolte, la protection des frontières et les mécanismes de prix minimaux de soutien. Parmi les pays africains qui ont accordé des subventions figurent en tête le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal pour 81 millions de dollars. Principalement en faveur des engrais et des semences. Pour finir, à la fin du mois d'octobre, les importations indiennes de pétrole africain ont atteint 874 000 barils par jour, son niveau le plus élevé ces trois dernières années. Le pétrole africain est devenu l'un des plus attractifs du marché avec les sanctions américaines sur l'Iran. Les importateurs indiens n'étaient pas sûrs d'obtenir des dérogations de Washington pour importer du pétrole iranien.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
On connaît désormais 8 nouveaux qualifiés pour la CAN 2019 de football.
Oui, après le Cameroun, pays hôte, l'Égypte, Madagascar, le Sénégal et la Tunisie, 8 nouveaux pays ont validé leur billet à l'issue de la 5e journée de ces éliminatoires. Il s'agit de la Côte d'Ivoire qui a assuré le nul 1 partout hier à Conakry devant la Guinée qualifiée avant le coup d'envoi. Le Nigeria aussi se qualifie après son nul 1-1 en Afrique du Sud, tout comme le Maroc grâce à la victoire des Comores face au Malawi.
L'Algérie et le Mali ont décroché leur qualification à l'extérieur.
Au Togo pour les Algériens et au Gabon pour les Maliens, les Fennec ont nettement battu les Éperviers 4-1 et les Aigles ont réalisé le service minimum devant les Panthères. Et puis, qualification aussi pour la Mauritanie. Première fois de son histoire après sa victoire de 2-1 face au Botswana. Enfin, comme en 2017, l'Ouganda sera au rendez-vous de la CAN 2019. Les crânes ont validé leur billet à domicile en s'imposant 1-0 face au Cap-Vert.
Des équipes ont raté l'occasion de se qualifier lors de cette 5e journée.
On peut citer le Zimbabwe. Les Warriors, qui avaient la qualification à leur portée, se sont inclinés 1-0 au Liberia. Un résultat qui relance les Libériens, désormais deuxième au classement devant la RDC et le Congo qui se sont neutralisés. Le Bénin aussi avait raté l'opportunité de se qualifier à Banjul. Les écureuils battus par la Gambie 3-1 auront une finale à jouer en mars prochain contre le Togo, tout comme l'Afrique du Sud en Libye. Les Bafana Bafana, accrochés à domicile par le Nigeria, n'ont désormais qu'un seul point d'avance sur les Chevaliers de la Méditerranée qui ont atomisé le Lesotho 8-1.
Élisée, la grosse déception reste l'élimination de la Zambie.
Effectivement, Idrissa, les Chipolo Polo, champions d'Afrique en 2012, ne seront pas au Cameroun l'année prochaine. La faute à cette défaite 1-0 face au Mozambique. Déception également pour le Burkina Faso, battu 2-1 en Angola. Et pour se qualifier, les étalons devront battre la Mauritanie en mars prochain, tout en espérant que l'Angola ne s'impose pas au Botswana. Par contre, le Ghana s'est relancé après avoir battu l'Éthiopie 2-0. Avec ce succès, les Black Stars reviennent à un point du leader kényan.
Football toujours, mais chez les dames, la CAN se déroule actuellement à Accra, au Ghana.
Et deux grosses surprises ont clôturé la première journée des matchs de poule. Le Nigeria battu 0-1 par l'Afrique du Sud et la Guinée équatoriale surclassée 5-0 par la Zambie. Demain, on aura droit à la deuxième journée dans le groupe A. Le Ghana et le Cameroun tenteront de confirmer leur victoire inaugurale, respectivement contre le Mali et l'Algérie. Un mot rapidement sur le mondial féminin des moins de 17 ans. Les Ghanéennes sont déjà assurées de disputer le second tour après deux journées. Par contre, les Camerounaises joueront leur qualification mercredi face à la Corée du Nord, tout comme l'Afrique du Sud dès ce mardi contre le Mexique. Et puis, la NBA pour finir. Et avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit.
Memphis et Minnesota 100-87, LA Lakers et Miami 113-97, Orlando et New York 131-117, Portland et Washington 119-109, San Antonio et Golden State 104 à 92.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, attaque dans la nuit de samedi à dimanche contre un poste de gendarmerie situé sur la frontière avec le Burkina Faso. Cette attaque perpétrée par des hommes armés roulant en moto a coûté la vie à deux gendarmes et blessé trois autres selon les autorités. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Selon des habitants de la localité, les assaillants sont venus en moto aux environs de 20h temps universel samedi soir. Ils ouvrent le feu sur le poste de la gendarmerie du pont bascule de Makolondi. Les gendarmes ripostent, les échanges de tirs ont duré plus d'une heure selon des témoins. Le bilan officiel est donné par le gouverneur de la région de Tillabéri, Ibrahim Tijani, qui s'est rendu sur les lieux le lendemain.
Deux gendarmes tués, trois blessés, dont un grave, quatre armes AK-45 emportées, des téléphones portables emportés, détruits également. Les bandits, ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas faire face aux forces de défense et de sécurité. Pour réussir leur coup, il faut surprendre les forces de défense et de sécurité. C'est pourquoi je demande à toutes les forces de défense et de sécurité d'être très vigilantes.
Cette attaque intervient alors qu'il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur, interpellé au Parlement sur la situation sécuritaire dans la zone de Tillabéri, annonçait un nettoyage de la zone faisant frontière avec le Burkina par des éléments des forces de défense et de sécurité.
L'état-major tactique basé à Torodi, qui a en charge la situation à la frontière du Burkina, a déployé des forces importantes qui ont investi la forêt, tous les camps qu'il y a dedans, sont en train d'être nettoyés.
Ces opérations de nettoyage ne sont en tout cas pas visibles, retorque cet élu local parti avec le gouverneur sur les lieux de l'attaque dimanche matin.
Le terrain leur est favorable parce que quand vous prenez cette bande-là, hormis la voie qui mène sur Boni où il y a une partie de l'opération Saki qui est là, tout ça là c'est vite jusqu'au Burkina. Tout c'est vite et malheureusement c'est la forêt. Alors vraiment ils peuvent mouvoir comme ils veulent sans que personne ne les aperçoive. Notre zone, la complexité, c'est que un peu partout vous allez trouver des habitations éparpillées. Des gens qui sont là venus installer, personne ne sait d'où ils viennent.
Il n'y a pas longtemps, un prêtre italien a été enlevé dans cette zone frontalière entre le Niger et le Burkina Faso. La partie que ces deux pays partagent avec le Mali est en passe de devenir un sanctuaire des groupes de terroristes et de criminels, déclarait récemment le chef d'état-major des armées du Niger lors d'une rencontre du G5 Sahel à Niamey. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En République du Congo, grève depuis trois mois à l'université Marienne Ngouabi de Brazzaville. C'est la seule université publique du pays et elle est fermée depuis ce débrayage des travailleurs qui estiment aujourd'hui que le gouvernement ne se préoccupe pas de leur sort. Reportage sur place d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Depuis deux mois et demi, Bayardel, à la faculté de lettres et des sciences humaines, un des plus importants établissements de l'université Marien Ngouabi, est devenu désert. L'herbe commence à gagner du terrain. La cohue des étudiants est aujourd'hui remplacée par des chants des oiseaux. Dans cet univers perdu, quelques usagers de l'administration scolaire sont quand même reçus par le service minimum.
Ce matin, je suis venu pour retirer l'attestation de fin de cycle universitaire. Quand même, on m'a reçu et je pourrais retirer ça la semaine prochaine, mardi, j'espère.
Les étudiants expriment ici leur amertume.
Ça dérange, ça fait trois mois, on est à la maison, les choses roulent au ralenti. On attend même les rattrapages, on n'a pas encore fait. ça. Donc,
on a certains qui sont au village, là ils sont en train de faire des chants. Et ce n'est pas aussi trop avantageux pour nous parce que lors des sessions, on ne s'apprête plus, on ne lit plus nos leçons. Bon, on va perdre certaines notions.
Les étudiants finalistes, eux, sont inquiets pour leur avenir.
Cela a une conséquence sur la crédibilité des diplômes que nous obtenons à l'université Marien Wabi. Parce que les gens vont se poser la question, s'ils sont régulièrement en grève, est-ce qu'ils accomplissent quand même la masse horreur requise pour valider un diplôme ou un cycle?
Quant aux enseignants qui maintiennent leur mouvement de grève, il n'y a pas de miracle à faire. Ils ont déjà trop fait de sacrifices. Professeur Mbété.
Jusque-là, ils n'ont pas de proposition à faire. Sinon, nous demander de faire le bénévolat. Ouvrez, faites des inscriptions, faites les concours bénévolement. Qui au jour d'aujourd'hui accepterait de travailler bénévolement alors qu'on a des charges? On n'est pas fermé, on n'est pas catégorie. La balle est dans le camp du gouvernement.
Interrogé sur la question, le ministre de l'Enseignement supérieur appelle les enseignants à comprendre la situation générale du pays et à revenir à l'université. Bruno Jean-Richard Itois.
Elle est en grève, on connaît les raisons. La conjoncture est difficile. Il y a quelques arriérés de salaire qui c'est pénible. Ils ne sont pas les seuls, malheureusement. L'année n'est pas encore en péril parce que j'entends commencer à dire l'année, non. Elle n'est pas du tout en péril, mais nous allons continuer à dialoguer avec les syndicalistes, avec les travailleurs, et j'espère que nous pourrons les convaincre, moyennant quelques efforts que le gouvernement peut faire.
Gabriel Bisanga, président du syndicat des agents de l'université, explique pourquoi, depuis le 7 septembre, les enseignants observent une grève illimitée.
Nous accumulons 6 mois de salaire impayé. Nous avons les heures complémentaires et supplémentaires d'encadrement de thèse et mémoire. Et puis, nous voulons être payés comme les autres fonctionnaires. On n'a jamais commencé des discussions franches avec M. le ministre. C'est déplorable. Tous les travailleurs de l'université sont indignés. C'est des propos purement mensongers. Il n'y a pas de négociation.
Après près de 3 mois de grève, Marien Wabi reste fermée. Et personne ne sait quand les cours reprendront ici. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Nigeria, les responsables des services pénitentiaires tentent de changer la situation dans les centres de détention du pays. Ils indiquent avoir inscrit quelques 465 détenus dans des programmes de formation professionnelle et universitaire. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie dans un système régulièrement critiqué par les organisations des droits de l'homme, nous dit Gilbert Tamba, correspondant de VOA Afrique au Nigeria.
Ils sont aujourd'hui plus de 75 000 détenus dans les prisons au Nigeria, répartis dans 240 centres de détention. Dans certains centres, les détenus ont la possibilité de suivre des cours de formation professionnelle. En outre, 12 centres de formation universitaire ont été établis dans différents États. Frances Enobure est chargée de la communication des services pénitentiaires du Nigeria.
Les programmes que nous offrons pour la formation professionnelle sont entre autres la coiffure homme, la couture et d'ailleurs cette tenue que je porte. En ce moment a été réalisé par un prisonnier formé en détention. Et beaucoup d'entre eux réussissent bien dans la société. Il y a aussi la menuiserie, la soudure, la fabrication de chaussures et autres.
Les niveaux de formation dépendent des compétences déjà acquises par les détenus avant leur arrestation. Adeyi Théophilos Okechukwu est l'un des bénéficiaires du programme de formation supérieure. Il a obtenu un master en résolution des conflits et acquitté par la justice nigériane.
Quand nous avons commencé le programme, les autres détenus se moquaient de nous. Ils nous disaient « Pourquoi ne pas vous occuper de votre situation? Trouver une solution à vos problèmes avec la justice ou mieux encore, travailler ensemble avec ceux qui sont condamnés pour sortir de prison au lieu de vous leurrer en disant que vous étudiez en détention. » Ils nous demandaient depuis quand on voit un détenu sorti diplômé d'une prison au Nigeria. Cela n'arrive jamais, mais avec l'engagement et la persévérance, nous avons pu continuer.
La surpopulation des prisons est liée au fait qu'environ 70% des détenus n'ont jamais été jugés et condamnés. Mais le débat sur la situation des détenus en attente de procès dépassant le nombre de condamnés au Nigeria n'est pas nouveau. Sanusi Moussa est avocat au barreau nigérian. Il donne ici quelques raisons du retard dans le procès des détenus.
Dans la plupart des cas, la police envoie les gens en prison alors que les enquêtes ne sont pas finies. Ensuite, nous devons penser aux problèmes de logistique dans les prisons. Enfin, le nombre de juges disponibles est un autre problème parce qu'ils sont surchargés. Donc, quelle que soit la situation, ils doivent se prononcer sur toutes les affaires. affaire devant eux.
They must listen to other cases.
En 2015, le Nigeria a adopté une loi sur l'administration de la justice criminelle pour accélérer les procès. Cette loi limite le nombre d'ajournements des procès et stipule qu'un procès devrait se dérouler en un coup autant que possible. Mais cette disposition n'a pas encore permis de réduire le nombre de détenus en attente de procès. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Mali, la mégastar Salif Keita a donné un concert gratuit samedi dernier au stade de football de Fana pour rendre hommage à la petite albinos Ramata Diarra, assassinée en mai 2018 dans cette localité. Compte rendu de notre correspondant Kassim Traoré.
Le terrain de football de Fana a refusé du monde. C'était à la faveur du concert gratuit pour rendre hommage à la petite albinos Ramata Diarra, assassinée à la veille de la présidentielle malienne.
Je trouve ce concert mémorable avec ce qui est arrivé à la petite Ramata. Tout le Mali a été choqué. Salif même qui est un peu l'ambassadeur même de ces gens qui sont discriminés. Je crois que c'est un message fort qu'il lance. J'espère qu'à travers ce concert, à travers ce forum qu'il a fait, ça va bousculer les choses parce que ça va faire peur peut-être aux gens pour dire que tant qu'ils vont agir de façon négative, les autorités et la société civile vont se mettre sur leur dos. Je pense que ça peut être un signal fort pour que les exactions et la discrimination des personnes atteintes d'albinisme s'arrêtent.
Fana n'avait pas abrité un tel événement. En plus de Salif, il y avait le Sénégalais Ismaël Lo ou encore la chanteuse malienne Safi Diabaté qui ont émerveillé le public de Fana.
Je suis de la Mauritanie. Ça va, la situation était bonne. On était là pour la conférence pour l'Afrique de l'Ouest et c'est bien passé. On a fait d'activités, on a fait d'activités d'échange et on a visité le centre Bamako ici au niveau de Bamako. Et aujourd'hui, on est dans le concert et c'était impeccable. D'après ce que je vois, si on continue comme ça, on va gagner le combat.
Le public connaisseur de la musique était là pour les shows et l'hommage à Ramata Diarra, dont les parents étaient de la soirée, comme les albinos venus du monde.
C'était génial. Beaucoup d'amour, de solidarité, fraternité. C'était bien. La vie, c'est la paix. C'est ça que j'ai retenu. C'est une bonne chose, cette manifestation. On est tous là pour essayer que plus jamais ça ne se reproduise. Mais c'est un mauvais acte qui lui est arrivé. J'espère que ça ne se reproduira pas. Moi, je suis française, mais je soutiens, quoi.
La soirée était très bonne. Je sais encore ici la de Salif Keita. Je suis satisfait.
Le concert de Fana a été aussi une occasion pour les participants, surtout les artistes, de dénoncer les exactions dont sont victimes les albinos en Afrique et dans le monde.
Je suis venu pour découvrir le concert, c'était très très bien.
Vous pensez que le message sera perçu?
En tout cas, par les gens qui étaient ici, c'est sûr, il n'y a aucun doute. Un gros concert comme ça, gratuit, ça marque les esprits. Et puis, il a fait venir beaucoup de personnalités, donc je pense que le message passe. Et c'est important de le faire passer, parce qu'il y a un besoin important, apparemment.
Il faut signaler que c'est le 13 mai dernier que la petite Ramata Diarra, 5 ans, avait été enlevée par des hommes armés, alors qu'elle dormait avec sa mère et sa sœur dans la cour de la concession familiale. Son corps décapité a été retrouvé quelques heures plus tard, à côté de mosquée. À l'époque, des associations avaient dénoncé un crime rituel à l'approche de la présidentielle malienne. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons des églises face au VIH-Sida.
Avec des millions de fidèles à travers le monde, les églises peuvent jouer un rôle dans la lutte contre l'épidémie. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas.
Pour en parler, nous recevrons le révérend Réussite Ngoy, pasteur pentecôtiste. Il nous parlera des obstacles idéologiques dans la lutte contre cette maladie.
Nous écouterons aussi le témoignage d'un homme vivant avec le VIH. Il nous dira pourquoi l'église peine à s'intégrer dans ce combat.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h, temps universel, dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Facebook, tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.